Quel beau chant. Tous les chants focus sur Jésus et son œuvre à la croix. Et aussi pour nous encourager à aller à lui. Quand on entend des chants qui dit comme « attaché à la croix pour moi », c'est vraiment pour nous passer un message pour qu'on puisse vraiment le dire « Amen, Jésus est attaché à la croix pour moi ». Oui, il est attaché aussi pour les autres, mais il est attaché pour moi. C'est pour moi. On saisit par la foi ses promesses parce que c'est pour chacun de nous. Ça fait partie du plan de Dieu. Est-ce que Dieu voudrait que tout le monde sur la planète s'accroche à cela et dise « attaché à la croix pour moi ». Pourquoi que c'est important d'être attaché, que Jésus a été attaché à la croix pour nous? On va le voir aujourd'hui dans l'étude. C'est sûr que c'est une étude qui est sur le sujet qui est pas... c'est pas un sujet qu'on parle souvent, puis c'est un sujet qui est réel, qui est vrai, que la Bible en parle dans plein de passages, puis que les gens ne veulent pas y penser. Puis à cause de ce sujet-là qu'on va voir aujourd'hui, c'est important que Jésus soit attaché à la croix pour nous. Il fallait qu'il meure à la croix, qu'il verse son sang, qu'il subisse le châtiment de Dieu à notre place. Parce que quand Jésus est accroché à la croix, c'était à notre place. C'est nous qui devons mériter la mort à cause de nos péchés. La Bible, ça le dit dans la parole de Dieu que Dieu, il est juste, autant que Dieu est amour, il voudrait que tout le monde soit sauvé, mais Dieu est juste, puis il a déjà annoncé qu'il y aura un jugement pour les coupables, pour ceux qui sont dans leur péché. Il fallait absolument que Jésus aille payer à la croix le sacrifice que ça prenait pour subir la mort à notre place. Pour nous éviter, selon le sujet qu'on va voir aujourd'hui, on va voir le sujet « L'enfer, un mythe ou une réalité ». On va étudier ce thème-là dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que les apôtres ont dit à propos de l'enfer? Puis avec ça, ça va... Puis je vous le dis, c'est quelque chose que Dieu me dit de le dire. Puis quand on veut parler de sujets si précis que ça, qu'il y a un enfer, c'est ça qui est le but. Vous allez voir que c'est pas un mythe, c'est une réalité. L'ennemi, le diable, ne veut pas qu'on parle de ces sujets-là parce qu'il veut tenir le monde aveugle dans ces sujets-là. Il veut pas que le monde se préoccupe de penser à ce que ça existe vraiment, puis que ça l'amènera des gens peut-être à craindre la mort, puis à désirer vouloir changer de vie avant de mourir. Parce que c'est important qu'on saisisse ce sujet-là, parce que c'est aussi un sujet qui frappe chaque individu qu'on connaît. Même nous-mêmes, on est face à cela. Puis il y a une seule manière d'éviter cela, puis on va le voir aussi dans la parole de Dieu. C'est un message pour tout le monde, même s'ils ne sont pas ici aujourd'hui pour venir l'entendre. Parce que tout le monde va mourir. La Bible dit, il réserve aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On n'est pas en train de jouer à un jeu vidéo qu'on peut repaiser sur reset, puis recommencer une nouvelle game. C'est une game qui se vit, on a une fois à vivre sur la planète, puis après ça, c'est le jugement. Puis il est important de réaliser ce que Jésus a fait pour nous éviter d'aller là. On veut pas y aller à ce place-là, puis je veux pas envoyer personne dans ce place-là. Même mon ennemi, je veux pas qu'il y aille là. C'est trop grave. Lorsqu'on parle du sujet de l'après-vie, la vie après la mort, souvent on entend les gens s'exprimer « Ah, la vie après la mort, ça n'existe pas. » Le monde, en général, veut nier qu'il y aura quelque chose après. Il veut nier qu'il y aura une vie après la mort. Il y en a qui vont dire « Lorsque je meurs, je suis enterré, puis ça finit là. » Ils essayent de se convaincre, de se dire, parce que chacun se fait son opinion pendant sa vie. On essaye de se dire, je vis ma vie comme que je veux, puis je décide que ça l'arrête là. C'est ça qui est le point. Quand quelqu'un affirme ces choses-là, il essaye de se convaincre que ça l'arrête là. Si on parle du ciel puis de l'enfer, puis là tu poses la question aussi que le monde veut aller, il y a beaucoup de gens qui vont dire, tout le monde va au ciel, il y en a d'autres qui vont dire, dans plus pire que ça, « Oh, j'aime mieux aller régner en enfer que d'aller servir au ciel. » Ils vont dire des affaires de même, ou ils vont dire, « Oh, je vais aller prendre une bière avec mes chums en enfer. Puis c'est là qu'il y a les plus belles filles. Toutes sortes d'idées comme cela, quand le monde sait ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit de la vie après la mort? Qu'est-ce que la Bible dit sur la réalité des choses que Dieu a préparées? Parce qu'il faut bien comprendre cela. C'est pas quelque chose qu'on se convainc puis qu'il va arriver comme qu'on le pense parce qu'on était convaincu d'une chose. J'ai pas demandé de venir au monde. Chacun de vous, là, aucun de vous, je pense, qui a demandé de venir au monde, puis vous avez pas le contrôle non plus sur la journée que j'allais quitter ce monde. On fait face à une vie qu'on n'a pas choisie. On vit au monde dans un corps qu'on n'a pas choisi, dans une famille qu'on n'a pas choisie. On est ici, puis on fait ce qu'on peut pour survivre. Mais les règles de cette vie, c'est pas nous autres qui les a établies, c'est Dieu. Dieu a un plan. Puis on n'a pas le choix si on veut rentrer dans ce que Dieu a préparé de beau, mais on n'a pas le choix de suivre les règles puis de s'en aller dans le chemin que lui a tracé, qui était bon et beau, comparativement à ceux qui disent, moi je rejette tout ce que Dieu dit, je crée pas ça, puis je laisse aller ça. Puis là, ils pensent qu'ils vont pouvoir choisir la suite. Mais ça a cette valeur, c'est pas nous qui décidons. C'est pour ça qu'il est important d'étudier ce que Jésus a affirmé là-dessus et ses apôtres pour qu'on puisse comprendre vraiment ce que Dieu a préparé. La Bible ne parle pas d'une fin de vie après la mort. Des fois, on voudrait cela parce que on voudrait pas se remettre l'idée que, hey, ça se pourrait-tu qu'il y ait une vie après la mort? Puis tout ce que j'ai fait, y a-tu quelqu'un qui a vu ça, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, toutes mes actions, ma vie en entier, là, j'ai vécu plein d'affaires qui n'avaient pas d'allure, des fois on regrette des affaires qu'on a faites tellement que c'était laid. Puis on voudrait que tout s'efface-là en mourant pour pas avoir à revoir tout cela, puis surtout pas avoir à avoir rendre compte de ce qu'on a fait. Rendre des comptes. Ce qu'on appellera un jugement. Est-ce que Dieu a établi un jugement après la mort? On va le voir dans des passages. La Bible ne parle pas d'une fin de vie, puis elle ne parle pas non plus d'une réincarnation, comme certains pensent qu'ils vont se réincarner. Puis là, ils vont pouvoir revenir d'une deuxième vie, puis pouvoir s'améliorer. Puis s'ils ne sont pas améliorés, ils vont encore se réincarner pour essayer de, comme qui dirait, d'améliorer leur karma, comme, puis d'arriver à arriver à une vie parfaite qui finisse par rentrer au ciel. Après 6 000 ans d'histoire, j'ai pas vu un homme parfait encore dans mes yeux. J'ai pas vu un homme qui avait atteint la perfection à part Jésus. Puis que lui, il est venu, la Bible a dit qu'il est venu qu'une seule fois dans la vie. Puis il a vécu sa vie parfaite. Il fallait qu'il la vive pour accomplir sa mort à notre place. Mais ça, on va le voir à la fin. Le but, c'est qu'il n'y a pas de réincarnation. La Bible a dit qu'elle parle de résurrection. Une résurrection, c'est un retour à la vie. À être ressuscité, c'est que Dieu va nous redonner un corps, puis moi, je vais rester Daniel Poulain. Peut-être qu'il va décider de me changer de nom, ben moi, je vais être pleinement conscient que je suis revenu dans un corps, puis je vais continuer à vivre. Puis comme chacun de vous, ça va être la même chose. Dieu va ressusciter tout le monde. Tout le monde va revenir à la vie un jour. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre là-dedans. Il y a réellement une vie éternelle après la mort. C'est une vie qui est sans fin. Ça, c'est comme pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une vie, là. Ça, c'est le départ quand on est venu au monde. Puis ça, c'est la fin quand on meurt. Puis après ça, on tombe dans une vie qui est sans fin. Puis il est important qu'on se prépare pour entrer dans cette vie-là. Faut pas arriver là sans ce que Dieu a préparé, parce qu'on risque d'être dépourvu quand on va rentrer l'autre bord. Puis peut-être qu'on va avoir honte, puis peut-être aussi qu'on va avoir des conséquences graves. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. La preuve principale qu'il y a une résurrection, c'est que Jésus lui-même est ressuscité après sa mort. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, lui, veut qu'on marche par la foi. S'il aurait voulu, il aurait pu ressusciter à mesure tout le monde qui est mort. Il aurait pu. Mais il a décidé de faire ça comme les choses sont comme dans à cachette. Souvent, Jésus a parlé avec des paraboles. Puis là-dedans, il veut qu'on découvre ce qu'il a dit. Mais quand Jésus est venu, il l'a montré, il l'a mis en évidence, c'était annoncé d'avance qu'il viendrait le Messie, qu'il vivrait une vie sans péché, puis qu'il mourrait sur la croix, sur le bois, puis qu'il paierait pour la dette des péchés, puis c'était écrit aussi qu'il ressusciterait le troisième jour. C'était des paroles annoncées, puis que ça s'est accompli, puis le but, c'est que le message de l'Évangile, c'est ça, là, ce qu'on va voir dans un verset, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 6, ça, c'est le message de l'Évangile que Jésus est venu, il est mort, puis il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour, puis là, il est apparu à plein de monde. On va le lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Il dit, « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » C'est selon les Écritures. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, avait déjà écrit d'avance qu'il viendrait pour mourir sur la croix. Mais c'était pas écrit la croix, mais sur le bois. Qu'il mourrait sur la croix, pour le mourir pour nos péchés, selon les Écritures, verset 4, qu'il a été enseveli, fait qu'il a fallu vraiment qu'il goûte la mort, elle a été constatée par tout le monde, ils l'ont mis dans un tombeau, il restait là pendant 3 jours, puis qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, parce que la Bible elle dit qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Il a ressuscité d'entre les morts. Puis là, il est apparu à Céphas, qui est Pierre, il est apparu aux 12, il est ensuite apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns étaient morts dans cette période-là que la lettre est écrite. Mais il est apparu à plus de 500 personnes. Pourquoi que ça s'est passé comme cela? Parce que Dieu voulait démontrer à ses disciples, à tous ceux qui ont cru en Jésus, qu'il y a une résurrection. Il y a un retour à la vie. Il y a une vie éternelle après la mort. Puis la preuve de ça, notre Sauveur, le Messie, Jésus, il en est mort, puis tout le monde l'a constaté mort, il l'a enseveli, puis il est ressuscité comme Jésus lui-même l'avait annoncé, qu'il ressusciterait le troisième jour, puis ça s'est accompli, puis ils ont eu dans ce temps-là la preuve que la résurrection, elle existe. Puis c'est ça qu'il faut que chaque individu sur la terre puisse le savoir, qu'il y a une vie après la mort, puis on va avoir à rencontrer notre Créateur, puis il faut se préparer à rencontrer notre Créateur. C'est toute une histoire de foi. Dieu le dit, puis là, il nous laisse libre de prendre ce que Jésus a dit ou de laisser passer. Mais ça, si on laisse passer, ça ne changera rien, ça va s'accomplir comme que Dieu l'a annoncé. Quand on parle de résurrection, le mot qu'il y a là, ça a le sens de ressusciter, bien sûr, se lever, se dresser, comme si tu serais couché, puis tu te relèves. Ça veut dire, même si t'es mort, tu ressuscites de la mort. Quand tu ressuscites de la mort, c'est que même si t'étais mort, Lazare, dans la Bible, il était mort, il sentait déjà le pourri, puis Jésus a passé, puis il l'a ressuscité, il est revenu à la vie, ils l'ont détaché, puis là, il parlait, puis il mangeait encore, puis la vie a continué pour lui. Mais là, ça, c'était une résurrection physique. Qui a apparu dans ce temps-là, à ceux de son époque. Mais nous, la Bible, elle nous dit que même si on est mort depuis 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, il ne reste rien de notre corps, Dieu va ressusciter quand même chaque être humain qui a vécu sur cette planète. Il nous l'annonce, on va le voir dans certains passages, qu'il nous parle qu'il y a une résurrection des morts et des vivants. Le Nouveau Testament, il mentionne plus de 140 fois le mot « ressuscité » ou « résurrection ». Il ne parle aucunement de réincarnation. La Bible a dit que Dieu a établi un moment que Jésus va ordonner la résurrection de toutes les morts. Toutes les morts vont ressusciter. C'est le message de la Bible sur la résurrection. Dans Jean chapitre 5, les versets 28 et 29, ça nous dit, c'est Jésus qui parle. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, il y a une heure fixée par Dieu, où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ça c'est être enterré, être mort et enterré, y entendront sa voix, puis en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place entre les deux. La Bible mentionne dans ce passage-là qu'il y a juste deux groupes. Il y a les sauvés, ceux qui sont morts pardonnés, ceux qui ont fait le bien, c'est ceux qui ont vécu une vie conforme à ce que Dieu dit, puis vu qu'on est tous des pécheurs, il fallait que tu ailles à Jésus pour être pardonné, ça c'est sûr. Parce qu'on a tous fait des péchés. La Bible a dit, car tous ont péché. Fait qu'il n'y a pas de personne réellement meilleure que les autres. On est tous des pécheurs. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus nous offre la possibilité, si on a la foi pour le saisir, on va croire qu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il est mort sur la croix, il a versé son sang, c'est lui le Messie, il est même ressuscité le troisième jour pour me pardonner mes péchés. Là, aujourd'hui, j'ai un accès gratuit, comme j'ai lu au début de la réunion, un accès libre à rentrer dans la présence de Dieu gratuitement. D'être pardonné par Jésus, parce que Jésus a payé le prix pour qu'on puisse être sauvé. Fait qu'il va y avoir deux groupes rendus l'autre bord. Ceux qui ont suivi, ont été pardonnés, puis ceux qui ont refusé le pardon. C'est pas que les autres étaient meilleurs, c'est que les autres ont eu la foi dans un sauveur pour être sauvés. Parce qu'on est tous pécheurs. Mais c'est pour dire aussi que vu qu'on est pécheurs, personne ne pouvait se sauver par lui-même. Parce qu'on est tous coupables de quelque chose. On a tous désobéi à la parole de Dieu. Fait qu'on n'a pas le choix de dire, il faut que je passe par Jésus si je veux être pardonné. À un moment donné, ça va arriver, Jésus va ordonner que les morts ressuscitent, puis tout le monde, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier humain qui aura vécu sur cette terre, il va ressusciter, puis il va être debout devant Dieu. On ne peut pas l'éviter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui le décidons. C'est Dieu qui a donné l'autorité à Jésus, qui est Dieu aussi. C'est Dieu qui a ordonné à Jésus, commande de les sortir, puis ils vont tous ressusciter. Puis là, on va être debout devant le Seigneur, puis il va y avoir comme une séparation. On va voir d'autres passages qui parlent de cette idée-là, de ce qui se passe après. Peu importe ta religion, peu importe ta croyance, peu importe ta race, peu importe tes opinions, peu importe tes convictions, rien ne peut changer de ce que Dieu a déclaré dans la Bible. Parce que c'est pour nous qui décidons de la suite de la vie. On a le choix présentement de décider ce qu'on veut faire pendant notre vie. On peut décider de balancer tout ce que Dieu a dit, puis dire que moi je ne crée pas à ça, moi je fais ma vie à ma façon, puis je veux faire ce que je veux, puis Dieu nous laisse libre de faire tout ce qu'on veut. Il nous a créés libres, puis il ne forcera pas personne, sauf qu'il vient frapper à notre cœur, puis il nous le dit qu'il est là, puis il nous le dit qu'il nous aime, puis il nous le dit qu'il voudra nous sauver. Il vient nous le dire, mais là, des fois, il y en a qui résistent parce qu'ils savent que c'est vrai, mais ils veulent tellement profiter des plaisirs de péché qu'ils ne sont pas prêts à tout abandonner pour suivre Jésus. Ceux qui ont vraiment la foi, une foi qui se démontre par leur vie, qui vit vraiment dans cette foi-là, ils vont dire, moi, je crois qu'est-ce que Jésus a dit, puis qu'un Seigneur, prends ma vie, je te la donne, je veux te suivre, je veux te servir, je veux marcher avec toi, je veux recevoir tout ce que tu as à me donner. Puis je crois que tout le monde sont ici, c'est ça qu'ils veulent. Sinon, vous ne seriez pas ici. On veut tout ce que Dieu doit nous donner. Puis on veut le prendre par la foi. Pourtant, ces gens-là qui ont refusé, Dieu les a invités. Dieu y invite l'humanité en entier à être sauvée. Jésus nous a invités à entrer dans la porte puis le chemin qui mène à la vie. Il y a une porte qui nous mène à la vie, puis c'est Jésus. Jésus l'a dit, je suis la porte. Puis il a dit aussi, dans Matthieu 7, le verset 13 et 14, il dit, entrez par la porte étroite. Il invite le monde à rentrer, puis il voudrait que tout le monde rentre par là. Puis il y aura de la place là dans le royaume de Dieu pour tout le monde qui vit. Il y a de la place, puis même je suis sûr que Dieu est capable de bâtir des agrandissements s'il y aura trop de monde. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. C'est déjà tout prévu, c'est déjà qui va être là. Parce que, Puis Dieu, il nous aime tellement qu'il invite tout le monde, même s'il sait qu'il y en a qui ne viendront pas. Il savait d'avance qu'il y en a qui ne croiraient pas à son message. Mais il savait qui était pour croire, puis il prend soin de nous pour se rendre. Une fois que tu as donné ta vie, il te tient dans sa main, puis il veut te conduire dans ses voies. Mais il nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Là, il parle d'une autre porte qui est bien large. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Dans ce passage-là, c'est comme si on n'a pas trois chemins devant nous, on en a juste deux. Soit une petite porte étroite qui s'appelle Jésus, ou une porte large qui nous permet tous les plaisirs de ce monde que Dieu veut pas, dans un sens, mais que les gens veulent. Ils veulent pas s'occuper de ce que Dieu a dit. Fait que go, on se livre à tout ça. Puis il dit, il y en a beaucoup qui rentrent par là. C'est pour ça qu'un autre passage, il va dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ne peu qui vont répondre à l'appel. Bien, Dieu cherche quand même des gens, puis invite tout le monde, puis il nous dit, dans un autre passage, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est écrit dans Luc au chapitre 13. Il veut qu'on rentre. Il veut qu'on rentre parce qu'il veut nous sauver. Il sait l'enjeu de ce qui va se produire si on meurt dans nos péchés. Dieu le sait parfaitement, puis il nous a annoncé cela dans plusieurs passages qu'on va regarder. On continue l'idée. Il y a une porte mince, une porte étroite, puis ça c'est Jésus. Puis il y a un seul chemin, puis c'est encore le chemin de Jésus. Parce qu'il y en a qui passent à Jésus, mais ils ne rentrent pas, ils ne veulent pas marcher un chemin avec Jésus. Ils veulent juste voter pour Jésus. Ah, je vote pour Jésus, on voudrait être sur le bord. Mais Jésus parle de deux choses qu'il faut trouver. Il faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves le chemin. Puis savez-vous ce que c'est? Il est là le chemin. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. C'est le chemin. Marche dans le chemin. Passe à travers Jésus pour rentrer dans le chemin, puis après ça, reste dans le chemin. Tu t'en vas dans le chemin qui mène à la vie. Malheureusement, les gens qui ne croient pas et refusent d'écouter Jésus choisissent le chemin large qui mène à la perdition. C'est Jésus qui a dit ça. Puis le mot perdition, dans le grec, c'est perte, perdre, périr, pernicieux, dissolution, ruine, destruction. C'est tous des synonymes de ce mot-là. Le chemin large mène à la destruction, à la perdition, à la ruine. T'es fini. Il n'y a pas de moyen de sortir de là. Quand t'es mort dans tes péchés, déjà rendu trop tard. Fallait absolument avoir été à Jésus avant, puis de rentrer dans son chemin, puis de commencer le chemin. Puis là, si tu meurs dans cet état-là, t'es dans le chemin qui menait dans la vie. Il n'y a pas de troisième option. Fait que soit que tu es avec Jésus, ou soit que tu es dans le chemin large, mais tu es fini. C'est la perdition. Des fois, je dis, oh, c'est pas grave, comme je disais tantôt, je vais aller prendre une bière avec mes chums, ou c'est en enfer qu'il y a les plus belles filles. Toutes des idées comme ça qui n'ont aucun sens. C'est vraiment parce qu'ils ne pensent pas réellement à la vérité. C'est qu'ils se font des fausses idées. Comme dit, il va avoir tué plein de monde, puis il pense qu'il va avoir 60 vierges rendues l'autre bord. C'est complètement faux. Il n'y a aucun verset qui enseigne ces choses-là. S'ils se font des idées, ils sont prêts à mourir pour leurs idées, mais c'est pas ce que Dieu a enseigné. C'est soit tu es avec Jésus, ou soit tu es dans un chemin qui mène à la ruine. Fini. On va l'éplucher un peu dans d'autres versets pour voir que ça veut dire quoi tout cela. Quelques versets qui décrivent le ciel, non, qui décrivent le lieu horrible. Parce que le ciel, on va en reparler dans d'autres moments, parce qu'il y aura trop de choses à dire. Même pour cette étude-là, là, parler de la suite d'après la vie, là, j'ai déjà fait une étude sur Internet de la vie, de la mort, puis de la vie après la mort. Il y a 15 messages, je pense, dans cette prêche-là, qui expliquent différentes idées dans tout cela. Si vous voulez approfondir, c'est là dans mon site Internet. Ça que là, il faut condenser pour arriver à faire un message juste précis sur le lieu horrible. Jésus a parlé de ce lieu de perdition-là à plusieurs reprises. Il a même dit une fois que t'es mieux de perdre un membre que d'être jeté dans la géhenne de feu. T'es mieux de t'amputer un morceau, le morceau qui te fait pécher, là, t'es mieux de l'amputer que mourir dans ton péché puis d'être ramassé dans ce lieu de perdition-là. Puis il appelle ça la géhenne de feu. Dans Marc chapitre 9, le verset 47 et 48. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux puis d'être jeté dans la géhenne. Où est-ce que les vers ne meurent point puis où est-ce que le feu ne s'éteint point? Il y a plusieurs autres passages qu'on va voir. C'est un lieu 100% désagréable, de tourment, de souffrance, de pleurs, de grincements de dents, puis à part des autres conséquences. Il appelle ça la géhenne. La géhenne, ça représentait le dépotoir de Jérusalem, un lieu où se faisait brûler vidange. Il est en train de dire que t'es mieux de rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir tes deux yeux, voulant conserver tes péchés, puis te ramasser dans les vidanges de feu qui ne s'éteint point. À la fin de cette vie terrestre, comme je l'ai dit tantôt, Jésus va donner un ordre, parce qu'il y en a des fois, « Oh, si moi je reste dans la terre, tout est fini. » Parce qu'il voudrait que ça reste dans la terre, là, puis que ça soit tout fini. Il n'y a pas grand monde qui aimerait ça, que ça, d'un coup que c'est vrai qu'il y a une résurrection, puis que je passe devant Dieu, puis que j'ai à rendre compte de mes actions que j'ai faites. C'est sûr que là, il n'y a pas personne qui veut ça. Puis que on a vu un passage tantôt qui disait que Jésus va l'ordonner, puis tout le monde va ressusciter, qu'ils le veulent ou non. Qui ait cru ou non. Là, ça nous dit dans le prochain passage qu'à la fin de cette vie terrestre, là, il y aura un jour où toutes les personnes non pardonnées comparaîtront devant le trône de Dieu pour être jugées selon leurs œuvres. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 13. Puis je vis un grand trône blanc. Ça, c'est le trône de jugement, le trône de Dieu. C'est ça, celui qui a vu ça, c'est Jean, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 20, il a décrit ça. Il a vu la vision, il a vu le grand trône blanc, puis il a vu celui qui était assis dessus, Dieu. Puis il dit que la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Ça veut dire que tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme création va disparaître. Quand il va arriver le jour du grand trône blanc, c'est après... Quand tout va être fini, puis la vie terrestre, la vie, même la planète, puis tout ce que Dieu a créé, va disparaître. Il n'y aura plus de place pour ce royaume, toute cette étendue qu'on voit aujourd'hui. Puis ça nous dit, « Et je vis, au verset 12, je vis les morts. » Ça veut dire que les morts qui étaient tous enterrés sont tous là. Je suis sûr qu'ils ne s'attendaient pas à ce rendez-vous-là. Ils n'avaient, je suis sûr qu'ils l'ont déjà entendu, qu'ils étaient pour aller là, mais ils n'ont pas cru. Là, on ne parle pas des morts pardonnés, on parle des morts non pardonnés, parce que là, j'ai une autre étude qui parle que la résurrection pour la vie, ça va être dans un autre moment. C'est quand Jésus va revenir. Ça va être la première résurrection. Puis que là, il va y avoir les morts qui vont ressusciter, puis nous, les vivants, on va se retrouver, on va être changés en un instant, un clin d'œil. C'est ça, la première résurrection. Puis il faut pas manquer le retour de Jésus. Mais là, on parle pas de cela aujourd'hui. On parle de ceux qui ont attendu, qui ont pas voulu rien savoir, sont encore dans l'attente. Il dit, les autres morts ne reviennent pas à la vie, puis attendent le jour du jugement pour revenir à la vie, parce qu'ils vont être devant le trône blanc. Puis les morts, au verset 12, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un livre ouvert, c'est celui qui est le livre de vie. Ça veut dire qu'il y en a des livres, parce qu'on va voir que tout le monde va être jugé d'après ces livres-là. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ses livres. Là, ça dit que tout le monde va être là. La mer rendit les morts qui est en eux. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui est en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Je pense que ça va être long un peu. Parce que là, il faut qu'il passe chaque individu qui a vécu depuis le début de la création. Ouais, mais là, nous, là, notre film, mais les autres vont savoir le film de notre vie. Parce que là, les œuvres vont être dévoilées d'après ce qui est écrit dans ces livres. C'est comme passer en cours pour une personne, puis là, tout ce qui est, les preuves sont là, là. Ils te montrent les preuves de la perdition. Toutes nos pensées mauvaises qu'on a eues, nos paroles mauvaises, nos ressentiments mauvais, toute notre méchanceté, toutes nos actions mauvaises, tout ce qu'on a fait de mauvais va être dévoilé devant Dieu, devant lui, la création en entier. On ne pourra pas dire, ouais, mais, non, on peut pas se défendre. Il y a juste un seul avocat qui peut nous défendre, puis c'est Jésus. Il y a juste lui. T'es mieux d'accepter Jésus pendant que t'es vivant, parce que c'est le seul avocat qui peut te défendre rendu l'autre bord. Il va dire, moi, je suis mort sur la croix pour payer pour la dette de ses péchés. Puis là, Dieu va dire, t'es acquitté, t'es blanchi, t'as pas de péché, tu rentres. Mais nous, on sera pas à ce jugement-là, parce qu'on est déjà des ressuscités. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je veux pas me sortir de cette idée-là. C'est que les morts non pardonnés parce qu'ils n'ont pas été à Jésus ont aucune possibilité de se disculper. Tu passes pas en cours pour les bonnes actions que tu as faites. Tu passes en cours pour les mauvaises. Puis la Bible, elle dit tous ont péché. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. J'ai péché, on a tous péché. Donc, la Bible a dit, après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Fait que les gens vont passer un par un devant le grand trône, puis ça dit que les morts furent jugés d'après leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Fait que ça veut dire que chaque personne a au moins son livre, avec toute sa vie est dévoilée devant Dieu. Dieu connaît tout ce qu'on a fait depuis qu'on est au monde jusqu'à la fin de notre vie. Dans toutes les choses, les domaines, nos pensées, nos paroles, nos agissements, il n'y a pas de moment où ce qu'on est tout seul. Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout, puis il nous connaît plus que ce qu'on se connaît. On peut rien cacher devant lui. Tout est mis à nu et à découvert devant celui devant qui nous devons rendre compte. C'est pour ça que je crois que ceux qui vont mourir sans Jésus, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Si on annonce ça aujourd'hui, là, c'est pour dire aux gens, il faut absolument trouver la porte pour recevoir le pardon puis rentrer dans le chemin resserré. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est important qu'on s'en aille là, qu'on suive Jésus jusqu'à la fin, qu'on s'accroche à ses promesses pour être pardonné. Les gens, là, on voit que l'autre verset, au verset 15, que je vais... comme la conclusion de tous ces gens-là là, qui ont passé non pardonnés devant le trône, sont jugés. Ça veut dire qu'ils vont être blâmés là, par Dieu. T'as-tu vu ce que tu as fait là? Regarde ce que tu as fait là. Regarde. Tu peux pas rien dire. Tu te voues. Tu vois, tout le monde va voir. C'est là. Tout le monde va fondre. Ils vont plier le genou, puis ils vont supplier Dieu, vont essayer de faire trouver tous les moyens de s'en sortir, mais ils pourront pas parce que t'as pas l'avocat avec toi pour te défendre. Le seul autre avocat qui était là, c'était l'avocat, comme qu'ils disent, le diable qui était l'accusateur, mais il sera plus là. Il va être déjà jeté dans les temps de feu lui-même. On va continuer avec cette idée-là. Le verset 15 dans l'Apocalypse, au chapitre 20, ça dit que les gens, parce qu'il y a un autre livre, là, c'est le livre de vie. Tous ceux que le nom ne sont pas inscrits dans le livre de vie, on voit ça là, au verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Cette Jaïne-là qu'on parlait tantôt, ce que le feu ne s'éteint point dans ce passage-là, ça s'appelle l'étang de feu, un lac de feu. Dans le grec, c'est une rive enflammée, qui était comme le dépotoir de Jérusalem, l'image que Jésus en donnait, qui était comme le dépotoir du royaume de Dieu, où ce qui est le paradis, la vie avec Dieu. Puis dehors, c'est le dépotoir, c'est là que les gens vont être jetés, puis ils pourront jamais voir Dieu, puis voir tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui ont la vie. C'est pour ça qu'il est important de que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Puis ce nom-là, bien que Dieu savait d'avance dans sa tête, savait qui acceptera, il y a un jour dans ta vie où ce que faut que tu décides de faire de Jésus ton sauveur, ton Seigneur. Parce que c'est là que ça commence. Quand tu crois vraiment que Jésus est mort pour pardonner tes péchés, tu vas aller à Jésus, puis c'est là que tu es pardonné, c'est là que tu nais de nouveau, c'est là que ta nouvelle vie commence, que tu vas être rempli du Saint-Esprit, puis c'est là qu'il va commencer une vie avec toi dans le chemin qui mène à la vie, puis que là, tu vas vouloir marcher dans sa parole, puis que ta vie va être changée. Puis si tu meurs dans cette position-là, tu es une personne sauvée, inscrite dans le livre de vie, tu t'en vas dans la vie éternelle avec Dieu, dans le paradis, dans le ciel. Il est important qu'on prenne ce choix-là avant de mourir. Parce que si on meurt sans le pardon, on meurt dans nos péchés, puis on va faire face au jugement et la colère de Dieu. La Bible a dit, « Les gens non pardonnés seront jetés dans le feu éternel, qui est une prison éternelle préparée pour le diable puis pour ses anges. » Quand c'était créé, cette place-là, ça avait un but. Le but premier, c'était le jugement du diable. C'était créé pour jeter le diable et ses démons, parce qu'il faut comprendre aussi, quand c'est une autre étude qu'on va faire un moment donné, ben je l'ai déjà fait une, mais c'est que dans le ciel, Dieu avait créé tous les anges qui étaient tous bons. C'était tous des serviteurs de Dieu, jusqu'au jour où il y en a un qui s'est rebellé, qui est devenu l'adversaire, le diable. Il l'appelle Satan, l'adversaire, le calomniateur, celui qui est méchant. Il a entraîné un tiers des anges de Dieu à sa suite pour se rebeller contre Dieu et commencer à faire le trouble sur la terre. Mais Dieu il a créé un endroit parce que lui tout, il va être jugé puis il va être jeté dans l'étang de feu. Ce lieu-là, c'était créé pour lui, pour jeter lui et tous ceux qui l'ont suivi. Mais ça nous dit dans le passage qu'on va voir, c'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 25, 41. Jésus doit savoir ce qu'il dit, là, parce que c'est lui qui a tout créé. La Bible a dit que c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui puis pour lui. Ça veut dire que quand il nous dit quelque chose, là, faut le savoir que ça se peut pas que ça soit pas ça. Jésus a dit, parce qu'il va y avoir le rassemblement de ceux qui sont pardonnés, puis ceux qui sont pardonnés, puis ceux qui ne le sont pas, puis il va dire ceux qui ne sont pas pardonnés, ceux qui sont à sa gauche, il va leur dire, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est un lieu-là qui initialement avait été créé pour le diable, les gens qui ont suivi le diable dans cette vie plutôt que de suivre Dieu, vont être jetés au même endroit que le diable puis ses démons. Dans le même jugement. Dans le jugement éternel. Ça nous dit, allez dans le feu éternel. Contrairement à ce qu'on a entendu dans la religion, ce qu'on était avant, il disait qu'il y avait un purgatoire. Ça n'existe pas, un purgatoire. Il n'y a aucun passage qui dit qu'il y a un lieu que tu vas aller souffrir pendant tant de temps, puis après tu vas pouvoir expier toi-même tes propres péchés, puis après sortir de là pour rentrer au ciel, puis tu vas rester moins longtemps si on chante des messes. Mais c'est tout faux. Ça n'existe pas. Je ne sais pas s'il est fermé, mais il y a encore du monde que je sais qui paye pour faire chanter des messes. Ils sortent de l'argent puis ils fournissent même pas à chanter les messes parce que les églises ferment. Il y a de moins en moins d'églises qui chantent des messes pour les morts. Fait que là, mais c'est tout faux. Il y a pas de, une fois que t'es mort, soit que t'es mort pardonné ou soit que t'es mort dans tes péchés, il y a pas de moyen d'expier nos péchés par nous-mêmes. Ça n'existe pas. fallait que tu passes par Jésus pour être pardonné. C'est le seul qui a vécu une vie sans péché et qui peut nous racheter. Les autres, c'est tu t'en vas pour payer toi-même la dette de tes péchés, puis c'est les souffrances éternelles qui attendent ceux qui auront refusé. Puis c'est une souffrance éternelle. Comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de lieu temporaire dans le sens payer pour nos péchés, souffrir pendant un bout. C'est un feu éternel. Les gens, le diable va être jeté là, puis il ne sortira pas de là, puis ça va être comme punition. Puis que les humains qui sont morts dans leur péché, Dieu ne peut plus rien faire pour eux, il est trop tard. C'est pour ça que Dieu il appelle tout le monde déjà, là, de venir d'entrer dans la porte étroite pour être sauvé. Tout le monde sont invités. La Bible dit que ces gens-là vont pleurer, vont grincer des dents, en voyant les prophètes entrer dans le royaume, tandis qu'eux vont être jetés dehors parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Dans Luc 13, verset 28, ça dit, « C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous, vous serez jetés dehors. » Il est important de faire partie des prophètes de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu, d'être des enfants de Dieu. On ne vient pas au monde enfant de Dieu. On le devient en recevant Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 12, dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Avant ça, tu ne l'es pas enfant de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous ses enfants. Mais tu peux le devenir, puis c'est gratuit. Tu as juste à aller à Jésus, puis il va te pardonner. Tu reçois Jésus dans ta vie, puis là, il t'adopte dans sa famille, puis tu deviens enfant de Dieu. Tu es sauvé. Tu vas faire partie de ceux qui vont rentrer dans leur royaume. Ce royaume-là qu'on parle, c'est le royaume céleste, la vie éternelle, le paradis de Dieu. Parce que le paradis n'appartient pas aux humains, le paradis appartient à Dieu. Tu n'as pas le choix d'aller à Dieu pour entrer dans son paradis. Si tu es pécheur, tu ne peux pas rentrer dans son paradis. Tu meurs dans tes péchés, tu n'as pas le choix, il faut que tu passes devant le jugement. Dieu y est amour, mais Dieu y est juste. S'il a dit quelque chose, ça va se faire comme qu'il l'a dit, puis il ne peut pas déclarer quelqu'un innocent quand il est coupable. Mais il a mis au point un système par Jésus de dire que Jésus a décidé de payer pour les coupables, fait qu'il a mis quelqu'un qui est un substitut qui pourrait payer la punition des péchés à la place des autres, c'est Jésus. Vu qu'il a vécu une vie sans péché, il pouvait payer la dette des péchés des autres. C'est pour ça que Jésus a pris sur lui la dette de l'humanité, afin que quiconque croit en lui puisse être pardonné puis rentrer dans son pardon. Là, ça dit que les gens qui vont être là, ils vont voir les enfants de Dieu rentrer dans le royaume puis qu'eux autres vont être jetés dehors. Il dit, c'est là qu'ils vont avoir des pleurs, des grincements dedans. Les gens vont dire, qu'est-ce que... Je ne savais pas, ou je n'ai jamais entendu parler, ou bien ils vont dire, comment se fait qu'il n'y a pas un chrétien qui est venu me le dire? Aujourd'hui, là, la bonne nouvelle est annoncée à tour de bras, là, partout, dans quasiment toutes les langues. Il y a des Nouveaux Testaments traduits dans toutes les langues. La bonne nouvelle est prêchée à la télévision, à la radio, sur Internet, partout. Les églises, il y en a partout, mais des fois, ils se font démolir par les gens de leur municipalité. Ils veulent pas entendre parler de Jésus. Ils trouvent toutes sortes de religions, mais tant que c'est du christianisme, ça, on veut étouffer ça, puis on veut pas... Mais qui c'est qui est en arrière de ça? C'est le diable qui fait tout pour faire fermer les églises, pour pas que le monde en entende, parce que le diable, lui, son but, c'est d'emmener quelqu'un avec lui dans le lieu de tourment. Lui, il sait qu'il est fini, que s'en va là. Son temps, il est compté. Il n'en pas long, il s'en va là, puis il essaie d'amener avec lui le plus grand nombre de personnes possible. Parce qu'il est tellement méchant qu'il veut que tout le monde se fasse punir par Dieu. Tandis que les enfants de Dieu, leur mission, c'est de l'annoncer, dire au monde, sauvez-vous de cette génération perverse, sortez du monde, suivez Jésus pour être sauvés. C'est ça le message de la bonne nouvelle. C'est ce qu'on annonce partout. Puis on veut le dire aux gens de se repentir pour être sauvés. Amen. La Bible a décrit aussi cet endroit-là comme un endroit de noirceur éternelle, à l'extérieur de la lumière de la vie. Dans Matthieu 22, verset 13, dans une parabole de Jésus, Jésus a dit, « Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est encore un exemple du jugement qui va arriver à ceux qui ne sont pas pardonnés, d'être jetés dans les ténèbres du dehors, en dehors de la lumière de la vie. La Bible a dit que la ville sainte est éclairée par la lumière de Dieu, puis Jésus et son flambeau. Il n'y aura même pas besoin de soleil pour éclairer. C'est Dieu qui va éclairer le paradis. Mais eux autres vont être jetés dans les ténèbres du dehors. Ils verront plus la vie parce que la lumière de la vie va être qu'en Dieu. Faut absolument que tu ailles à Jésus si tu veux vivre, si tu le sais qu'il y a une vie éternelle. Prépare-toi déjà, accepte Jésus, puis engage-toi à le suivre pour être dans la lumière de Dieu. Sinon, c'est d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Il y a un autre passage qui dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit pas au Fils ne verra point la vie. » Lieu de ténèbres, plus voir la vie. C'est comme si tu étais dans une noirceur totale pour l'éternité. En plus d'être dans un feu qui s'éteint point, où ce que les vers ne meurent point, ça symbolise les souffrances, les tourments, les regrets, tout ce que tu peux avoir comme idée pour dire « J'aurais dû donc l'accepter. Mon frère, il était chrétien. Il suivait Jésus ou mon oncle ou mon cousin du monde dans nos familles qui suivent déjà Jésus. Mon ami, il suivait déjà, mais eux autres, ils n'ont pas voulu. Peu importe les excuses qui se sont données, il est trop tard. » Si les gens n'entrent pas dans le paradis avec Dieu, c'est pas parce que Dieu voulait pas les sauver. Les gens, ils réalisent pas la gravité de leurs péchés qu'ils font chaque jour, puis ces conséquences-là à ces péchés-là. Parce que quand on pêche, ça nous affecte personnellement dans notre âme à nous. Oui, ça fait mal à quelqu'un quand tu fais un péché envers quelqu'un d'autre. Ça lui a fait mal sur le coup, mais après ça, s'il t'a pardonné ou s'il pense de temps en temps, c'est une affaire, mais on ne se rend pas compte le mal que ça nous a fait de désobéir à Dieu. Ça l'a fait de quoi? Directement dans notre âme. C'est comme si chaque fois qu'on désobéit, on souille notre âme, on salit notre âme. Notre âme, là, est sale à grandeur, est souillée par toutes nos offenses et nos péchés qu'on a faits. Le pire que ça, c'est à cause que ces souilleux-là sont là sur notre âme, ça nous empêche d'être en communion avec Dieu. Nos péchés mettent un blocage entre nous et Dieu. Ça l'empêche d'agir dans notre vie. C'est pour ça que Dieu était bien plein, qu'on peut demander pardon puis invoquer. Dis, Seigneur, pardonne-moi, puis que le sang de Jésus puisse me laver tous mes péchés, afin qu'il n'y ait rien qui me mette un obstacle à notre communion avec lui. Mais l'ensemble de l'humanité qui est sans Jésus, c'est comme si depuis le début qu'on est au monde, on pêche. Tous les jours, on pêche. Notre âme est noire de péché. Dans Isaïe 64, le verset 6, ça dit, nous sommes tous comme des impurs aux yeux de Dieu, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Tout le monde, on est sale, peu importe qui ce que nous sommes, on était comme ça, nous, avant d'être chrétiens, on était tous des comme cela. Mais si on n'est pas cela aujourd'hui, c'est à cause du sang de Jésus qui nous a lavés. Isaïe 59, le verset 2, ça dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça, ça veut dire notre âme qui est toute pleine de péchés, puis on pense, moi, mais que je meurs, je m'en vais au ciel direct. C'est un non-sens. Tu peux pas entrer dans le ciel, dans la présence du Dieu Saint, quand ton âme est souillée de tous tes péchés. Il faut absolument que tu sois lavé de tous tes péchés avant d'arriver l'autre bord. Sinon, tu peux pas rentrer. C'est pas parce que Dieu n'aura pas voulu les sauver. C'est parce qu'ils peuvent pas rentrer à cause de leurs péchés. C'est leurs péchés qui, le crime, c'est nos crimes qui nous met un blocage, qui empêche Dieu de nous bénir, de faire neuf. Il faut absolument effacer ça en premier. Puis il y a juste le sang de Jésus qui peut nous purifier. Faut que tu passes par Jésus qui est la porte. Une fois que tu as passé là, tu es purifié, puis là, il te donne son Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est comme si Dieu rentre dans ta vie à cause que tu as été lavé de tes péchés. Là, c'est possible de recevoir, puis de commencer cette nouvelle vie avec Jésus. Faut passer par la porte, puis il faut marcher dans le chemin. C'est Jésus le chemin. Nos crimes sont morts sans Jésus, nos crimes sont encore tout là, nos péchés sont encore tout là, puis on rentre pas avec ceux que Jésus va venir chercher pour être sauvé. On va attendre la résurrection afin de passer devant le trône du jugement de Dieu pour être jugé selon nos œuvres. Puis n'a aucune de pardonner, parce qu'il y avait juste Jésus qui va nous pardonner, puis on l'a refusé. Fait qu'on passe devant le juge pour être jugé selon nos œuvres. Puis on ne peut rien y cacher. Les gens, ils vont être bouche bée, ils ne sauront plus que se faire. Il n'y aura pas aucun moyen de s'en sortir. Ils sont perdus, c'est ça que Jésus a dit. Le chemin large et spacieux qui mène à la perte. Si tu es dans ce chemin-là, pense-y même pas, il n'y a aucun moyen de sortir de là. Dieu, il a déjà tout fait pour nous sauver. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous sauver. Dans Jean 3,16, ça nous le dit, « Car Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si on veut être sauvé, il faut passer par Jésus. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu parce que Dieu nous aime. Il voulait nous avoir, puis il est venu pour tout le monde, hein. Ça nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il aime le monde. Il aime pas le péché, mais il aime le monde. Puis il veut que donner une chance à tout le monde d'arriver à un moment donné, puis dire, là, je suis tanné de vivre ma vie tout croche. Là, je veux, à partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie change. Je veux être pardonné. Je veux recommencer à zéro. Comme on efface tout, là. Puis là, je vais marcher avec Jésus dans ma nouvelle vie. Puis il va m'aider parce que le Saint-Esprit va venir en moi. Puis en plus, il va dans sa Bible. Je vais lire ce qu'il y a là. Puis je vais comprendre qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu aime pas. Puis là, je vais pouvoir marcher puis lui faire plaisir. C'est ça, la vie d'un chrétien. Quelqu'un qui veut marcher puis faire plaisir à Dieu parce qu'il est sauvé. C'est ce qu'on veut. Tous nous autres, c'est tout ce qu'on veut. Puis le message qui est dit est aussi sur Internet, parce que je crois qu'il y a du monde qui écoute aussi sur Internet pour être touché par cela, parce qu'il faut que tout le monde qui a une petite idée que, ouais, il y a peut-être une possibilité qu'il y ait une vie après la mort. Oui, il y en a une. Jésus l'a prouvé. Il est ressuscité. Puis là, il nous appelle à se repentir, à sortir de la vie qu'on vit, là, tout croche, puis commencer à dire, moi, je veux obéir à Dieu, je veux servir Dieu, je veux que Dieu me pardonne, puis je veux marcher avec lui pour le reste du temps qui me reste à vie, puis mec, vienne me chercher, je sais où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais avec les pardonnés. Je m'en vais dans la vie éternelle avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvé. Fait que si une personne, un jour, n'est pas sauvée, c'est pas la faute de Dieu. Il a tout fait. Il l'a annoncé. La bonne nouvelle est quasiment mondiale. Ce sont très rares les places qui ne l'ont pas entendu. Puis la Bible, elle dit, si quelqu'un veut être sauvé, il faut aller à Jésus. J'ai pas choisi ce chemin-là, moi, dans le sens, c'est pas moi qui l'établis. J'ai vu que c'est ça que la Bible a dit, puis c'est ça que j'ai décidé de suivre. J'avais 20 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je le savais que Jésus existait, mais je comprenais rien de ce qu'il voulait. Moi, j'avais commencé à lire l'Ancien Testament, je comprenais rien. Mais ce message-là est écrit dans le Nouveau Testament. C'est la nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes à travers son Fils. Puis là, plus que je lisais là, après ça dans le Nouveau, là, je voulais connaître Jésus, je voulais être pardonné et je ne voulais pas aller en enfer. Je voulais pas y aller. Je savais que c'était quoi, je l'ai lu, puis je n'étais pas intéressé. Puis quand il est venu le temps, quand un prédicateur il a dit « S'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur », mais là, il en donnait l'occasion, il a fait un appel. Moi, je voulais être sauvé, je voulais pas y aller en enfer, puis je me suis levé, puis je veux suivre Jésus. Puis c'est ça que Dieu nous demande de faire. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, puis c'est en le confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Si vous voulez être sauvé, aujourd'hui, je fais un appel. Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Pour qu'il vous pardonne vos péchés, puis qu'une nouvelle vie commence. Si vous avez cela, vous avez juste à lever votre main devant le Seigneur, puis après ça, on va prier avec vous. Puis même, je vais faire une prière générale avec tout le monde, pour que s'il y a du monde sur Internet qui a entendu ce message-là, puis qui veulent s'engager, je vais faire une prière pour que vous engagez devant le Seigneur à le suivre. Répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y en a qui ont fait cette réponse-là au Seigneur puis ont accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, croyez que Dieu vous a pardonné. Laissez pas le diable vous mettre des doutes. On marche par la foi. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est ça. S'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est ça qui va arriver. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Fait que il vous a pardonné, vous lui appartenez. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Allez dans une église évangélique à quelque part pour entendre parler la parole de Dieu. Puis, persévérez jusqu'à la fin en suivant le Seigneur. Puis un jour, on va tous se retrouver là au bord en train de suivre le Seigneur. Amen.